Merci Thomas Schoner, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Tous les coups sont permis, semble-t-il, entre Donald Trump et les journalistes. La presse aime détester Donald Trump, qui le lui rend bien. Les relations entre Donald Trump et les journalistes américains sont compliquées, parfois violentes, insultes, agressions. La presse a parlé d'une candidature idiote, d'un clown qui veut être président. Trump a qualifié de folle une journaliste et s'est moqué d'un chroniqueur handicapé. La presse et Donald Trump sont un peu comme deux aimants qui s'attirent ou se repoussent. Les outrances du candidat milliardaire nourrissent les médias. Donald Trump, phénomène médiatique, on en parle ce matin avec nos invités dans le secret des sources. Célestine Bollen, bonjour.
Bonjour.
Chroniqueuse au New York Times. Michel Floquet, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint de l'information et correspondant de TF1 à Washington, où vous venez de rentrer et vous publiez « Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis » aux éditions Les Arènes. En duplex de Washington, Frédéric Carbone. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Correspondant de Radio France et de France Culture, Corentin Célin, bonjour.
Bonjour.
Historien spécialiste des États-Unis, votre dernier ouvrage « Amérique du Nord, entre intégration et fragmentation » aux éditions Ellipse. Notre regard extérieur qui nous accompagne aujourd'hui, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et en seconde partie de l'émission, nous recevrons Patrick Saint-Paul, correspondant du Figaro à Pékin, qui publie Le peuple des rats dans les sous-sols interdits de la Chine, édité chez Grasset. Le clin d'œil de la semaine de Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Jacques Hubert. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Americans must know that we are putting the American people first again on trade.
Sa popularité, le milliardaire la doit à son goût de la mise en scène et des provocations.
Pour vous dire la fascination des médias ici pour le phénomène Trump, hier soir, toutes les chaînes ont diffusé les 45 minutes de direct de sa conférence de presse farfelue.
Des musulmans décrétés persona non grata, un mur à la frontière avec le Mexique pour stopper.
Il en joue Donald Trump tous les jours. Encore hier, il déclarait que les journalistes politiques sont tous des menteurs. Ça sert son discours anti-establishment.
Le secret des sources.
Voilà, le ton est donné, extrait de plusieurs reportages diffusés notamment sur France Info, reportage de Gaëlle Joly. Frédéric Carbone, correspondant de Radio France à Washington. On a l'impression, Frédéric, quand même d'un combat entre la presse et Donald Trump, notamment dans la violence des termes utilisés. En tout cas, on est loin du débat d'idées.
Ah oui, ça c'est sûr. De toute façon, avec Donald Trump, je pense que depuis 30 ans, Donald Trump et la presse, c'est une bataille à peu près permanente. Là, ça l'est depuis le début, depuis l'annonce de sa candidature. Si vous voulez, de son côté à lui, en tout cas, ça a été dit dans les petits extraits que vous venez de diffuser, il a tout intérêt, dans son discours populiste, à stigmatiser tout ce qui ressort de l'establishment, tout ce qui ressort de ces soi-disant élites qui ne comprennent rien au peuple. Donc, dans chacun de ces meetings, il y a effectivement, des tirades anti-journalistes. Notre consoeur du New York Times, qui est à vos côtés, le sait mieux que quiconque, puisque le New York Times est une des cibles privilégiées de Donald Trump, mais il y en a beaucoup d'autres. Après, Donald Trump, il s'est aussi joué de la presse, et dans ces mêmes meetings, pendant des semaines, il a aussi brandi la une du magazine Time Magazine, un des plus célèbres hebdomadaires américains, sur le mouvement Trump, la une étant « Pourquoi Trump est-il en train de gagner ?» et le mouvement, c'est c'est-à-dire ces fameux dizaines de milliers de personnes qui sont tout le temps dans ces meetings. Donc voilà, il sait jouer de tout ça, les bons, les mauvais, les méchants, les gentils. Il cajole parfois et il insulte beaucoup.
Alors comment ça se passe, Célestine Bollen du New York Times, une réunion de Donald Trump, on est pris pour cible, on est cantonné dans un périmètre. kilomètres, on n'a pas le droit de circuler.
Non, non, je pense que ce n'est pas exactement comme ça. Je pense que toute la presse est mise un peu sous suspicion. Mais c'est que, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une relation assez symbiotique entre la presse et Donald Trump. Parce que sans la presse et sans l'attention qu'il a reçue, surtout à la télévision, il n'aurait pas été élu comme candidat provisoire des républicains. Donc, en fait, la presse, les médias sont beaucoup critiqués pour pas avoir ignoré ou insulté Donald Trump, pour lui avoir donné plus trop de place. Mais il y a une deuxième question, je pense, qui compte beaucoup pour les électeurs, c'est que Donald Trump a été regardé avec beaucoup de mépris, parce qu'il est ce qu'il est, on connaît bien. Et ce mépris a été pris par des électeurs de Donald Trump comme un mépris envers eux. Et ça, c'est une chose que je pense que beaucoup au New York Times sont en train de réfléchir.
Michel Floquet, les journalistes face à Donald Trump, on a entendu les sifflets. On va écouter d'ailleurs un peu comment ça se passe dans les meetings de Donald Trump. Il y a les sifflets contre les manifestants anti-Trump qui perturbent les réunions, mais aussi il n'hésite pas à faire siffler les journalistes. On écoute un extrait. Voilà, ça c'est l'extrait d'un meeting à Columbus dans l'Ohio en novembre dernier. On entend Donald Trump demander à son service d'ordre de faire sortir deux personnes, visiblement des manifestants. Mais c'est arrivé que l'on siffle les journalistes. En général, ça marche toujours de faire siffler les journalistes.
Oui, le journaliste est un bouc émissaire assez facile. Mais il faut bien reconnaître que les journalistes, dès le premier jour, dès la première heure de candidature de Donald Trump, ont expliqué que ce type n'était pas légitime et qu'il n'avait évidemment aucune chance. Les mêmes aujourd'hui vont vous expliquer qu'il n'a aucune chance maintenant qu'il a malgré tout pratiquement remporté investiture, d'être élu et de battre Hillary Clinton. Bon. Donc, si vous voulez, Donald Trump s'est retrouvé face à une presse qui était globalement hostile, du New York Times jusqu'à Fox. Voilà, il n'avait personne pour le traiter à minima avec honnêteté, je dirais. Il était un peu livré en pâture au public, et donc eh bien c'était tout à fait naturel, me semble-t-il. C'est un personnage très malin, c'est un communicant de grand talent, qu'il s'appuie sur cette opposition pour essayer d'exister, et ça a marché magnifiquement.
Frédéric Carbone, à Washington, les incidents ne sont pas rares. Il y a eu un problème entre le directeur de campagne de Donald Trump et une journaliste qui voulait juste poser une question. On a beaucoup parlé de cette affaire, même si aujourd'hui elle est dépassée et n'a pas donné suite à un procès.
On en a beaucoup parlé et elle illustre peut-être jusqu'à la caricature les excès des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté de Trump une forte brutalité, agressivité, et puis aussi une tendance à vouloir tout exagérer de ce qui se passe chez Donald Trump. Oui, ça s'est passé dans un des meetings de Trump il y a quelques mois, fin de meeting, comme souvent, cohue, et des journalistes essayent d'avoir trois mots du candidat, une consoeur d'un site. D'ailleurs, on est rare, très bienveillant vis-à-vis de Donald Trump, qui s'appelle Breitbart, un site républicain très pro-Donald Trump. Donc voilà, elle est là-dedans, elle suit le candidat, elle lui pose une première question, une deuxième, bon, il répond pas, c'est pas le lieu pour répondre, et puis il y a une main qui se pose sur son avant-bras, assez vigoureusement, d'autres journalistes ont vécu ça, assez vigoureusement, et c'est la main du directeur de campagne de Donald Trump, qui s'appelle Corey Lewandowski. Bon, il y a quelques images qui sont filmées, et cette jeune femme, quelques jours après, porte plainte en disant voilà, j'ai été brutalisé, agressé par le directeur de campagne de Donald Trump. Ça aurait été un garde du corps, une personne du Secret Service, la question se posait différemment. Là, il y a eu une enquête et puis il y a eu l'équivalent de ce qui serait en France un non-lieu. Cela dit, il y a quand même eu des suites, c'est que ce monsieur a un peu été écarté. Donald Trump l'a défendu publiquement en disant je vais pas lâcher quelqu'un qui est à mes côtés, mais il a été un peu écarté de la campagne. Il garde son rôle, il n'est plus autant en première ligne qu'il a pu l'être.
Célestine Belen, c'est compliqué, notamment pour le New York Times. Donald Trump, il y a une violence, il y a des déclarations, des outrances. Mais Donald Trump est omniprésent dans la presse. Il fait la couverture des journaux, des magazines. Il est tous les jours sur les chaînes de télévision, notamment CNN, peut-être plus que les autres. Il fait vendre et il fait de l'audience.
Oui. Et c'est ça que je disais avant, c'est que, par exemple, il y avait quelqu'un à CBS, une des grandes chaînes, qui a dit, qui a été cité, je ne sais pas où il a dit, mais que Dieu merci pour Donald Trump, ça nous a fait monter tous les ratings, je ne me rappelle plus. Parce que c'est vrai, c'est quelqu'un que tout le monde veut regarder. Il y a des curieux, il y a des gens qui l'aiment beaucoup, et puis il y a des gens qui l'aiment le regarder pour le détester. Enfin, c'est quand même un objet de... C'est un peu performance art, dans un sens. C'est difficile pour les médias d'ignorer. Et comme j'ai dit, on est beaucoup critiqué pour avoir fait trop d'attention, mais je pense que c'est... On ne peut pas ignorer un phénomène comme ça.
Alors, un épisode qui a marqué, dont on a beaucoup parlé ici aussi, dans ce combat entre Donald Trump et les journalistes, il y a Megyn Kelly, journaliste de Fox News. On va écouter un extrait de l'interview qui a valu plus de célébrité à Megyn Kelly et beaucoup de critiques à Donald Trump. C'était au mois d'août dernier sur Fox News. On va écouter un extrait repris par Canal+, il y a deux mois.
Lors d'un débat réunissant les candidats à l'investiture républicaine, la journaliste pose une question qui va beaucoup faire parler.
Vous avez traité les femmes que vous n'aimez pas de grosses truies, de chiennes, de ploucs et d'animaux dégoûtants. C'est pour vous le comportement de quelqu'un qui pourrait être élu président des États-Unis ?
Devant 24 millions de téléspectateurs, une journaliste de Fox News confronte un candidat républicain à des propos ouvertement misogynes. A brand new firestorm. Dans les jours qui suivent, Donald Trump tente de se défendre avec des propos qui, là encore, feront polémique.
Il y avait du sang qui sortait de ses yeux, sortait de son... Peu importe.
Quentin Célin, historien, spécialiste des États-Unis, des attaques comme celle-ci, très personnelles sur l'intimité des femmes, est-ce que c'est... C'est nouveau dans une campagne aux États-Unis ?
Ah, c'est complètement nouveau dans une campagne, j'allais dire, pour les candidats principaux. On a pu connaître ça avec des candidats plus marginaux, fringe, comme on dirait aux États-Unis. Mais pour des candidats du Parti républicain ou du Parti démocrate, c'est totalement inédit. Et surtout, cette volonté d'attaquer, de discréditer sans cesse les journalistes, là... où la tradition était, conformément à la démocratie, à plutôt avoir bonne presse et ne pas hésiter à entamer un duel public. Alors, cependant, on va nuancer un tout petit peu, puisque mardi prochain, Donald Trump sera reçu pour un grand entretien télévisé par Megyn Kelly, et ce qui sera l'occasion justement d'une éventuelle réconciliation. Et ça, c'est intéressant dans la méthode de Trump, parce qu'il est souvent, il est prêt à aller très loin, mais il sait toujours aussi revenir, ne pas faire le pas de trop. Et là, par exemple, avec Megyn Kelly, clairement, c'est l'occasion, l'entretien de mardi prochain, au moins de se réconcilier avec Fox News et la chaîne conservatrice dont il aura absolument besoin pour la campagne de l'automne.
Frédéric Carbone, d'un mot, cette rencontre, hein, c'est mardi prochain entre Megyn Kelly et Donald Trump, est annoncée comme un événement de la campagne.
C'est-à-dire que Donald Trump a dû passer 50 000 fois à la télévision depuis 3 mois et que sans doute ce sera, oui, l'interview de Donald Trump la plus importante, parce que il y a la question évidemment de Fox News. Il faut pas croire que Fox News est pour Trump depuis le début. Loin de là. Les questions dans les débats télévisés les plus délicates pour Donald Trump ont souvent été posées par des journalistes de Fox News. Autrement dit, le reflet d'une élite républicaine, évidemment pas pro-Trump. Ça change un peu ces derniers temps. Et Megyn Kelly, mine de rien, moi il y a quelque chose qui me frappait dans l'extrait que vous avez diffusé, le ton, c'est un ton de télé-réalité, le ton de l'extrait que vous avez diffusé. Et on est dans la télé-réalité avec Donald Trump depuis des mois, et une des questions, c'est quand est-ce qu'on en sortira, ou pas d'ailleurs. Personne ne le sait. Et mine de rien, Megyn Kelly, elle posait quand même la bonne question, une des questions en tout cas qui sera centrale dans la campagne électorale, qui est celle de Trump et les femmes et du vote féminin. Évidemment, ça sera une question extrêmement importante pendant la campagne présidentielle.
C'est ce que je voulais vous demander, Célestine Bollène, prendre les femmes pour cible, ça fait pas baisser dans les sondages ?
Oui, enfin c'est intéressant parce que je pense qu'il a perdu presque toutes les femmes, les blanches, les noires, les hispaniques, etc. Ce qui est paradoxal, c'est que Hillary Clinton n'était pas très favori parmi les jeunes femmes. Donc là, ça peut faire gagner un peu ce côté qui veut pas voter pour Trump. Une chose, il a joué aussi sur ça, sur Hillary. Il a dit que seulement parce qu'elle est femme, donc il n'a pas la tête dans le 21e siècle.
Michel Fauquet, je m'adresse aussi à l'homme de télé, hein, de TF1, là. Pour Fox News, c'est une bonne publicité aussi, toute cette histoire.
Ah bah Trump, c'est formidable, ça fait de l'audience, ça fait vendre. Moi, il y a une chose qui me frappe, si on veut risquer une comparaison, mais alors vraiment, juste sur le plan du traitement médiatique avec le Front National en France, c'est que face à Trump, les journalistes ont un peu fait comme les journalistes politiques français face au Front National, c'est-à-dire qu'ils avaient plus un avis, ils ont plus donné une sorte d'avis, si vous voulez, où ils ont plus attaqué sur l'écume des choses que sur la réalité de ce qu'il a anglais. C'est très intéressant de regarder dans la réalité ce que Trump, l'entrepreneur, a fait dans ces différentes sociétés. Est-ce qu'il a été vraiment successful? Est-ce que... Bon, voilà. Tout ça, ça a été très très peu fait. On s'est beaucoup plus focalisé sur sa personnalité parce que ça marche, parce que immédiatement il y a de la polémique, immédiatement il y a des petites phrases et donc ça fait fonctionner la presse.
Alors, les journalistes ont un peu fait leur autocritique, mais pourquoi se sont-ils trompés sur Donald Trump? Alors, on écoute d'abord le président américain Barack Obama.
Je veux juste vous dire à quel point la période est importante et le travail est sérieux. Ce n'est pas de l'entertainment, ce n'est pas de la télé-réalité. C'est une compétition pour la présidence des États-Unis. Ça signifie que tous les candidats doivent faire l'objet d'une attention minutieuse. Et ça veut dire que s'ils affirment qu'ils ont des solutions aux problèmes, cela doit être crédible et ils doivent donner des détails. Si c'est complètement farfelu et que cela ne marche pas, il faut le dire, les gens ont besoin de le savoir. Ce qui me préoccupe, c'est à quel point l'information pourrait insister sur le spectacle et le cirque, parce que nous ne pouvons pas nous le permettre. Les Américains ont un bon jugement et une intuition fiable, à condition qu'ils aient les bonnes informations.
Voilà, Barack Obama, à propos recueilli et traduit par Frédéric Carbone. Et bim, petite leçon de journalisme de la part du président américain. La presse fait pas le job, nous dit Barack Obama. Elle n'explique pas, elle ne décrypte pas. C'est simplement une caisse de résonance. Corentin, c'est là. On a juste tendu les micros.
Oui. Alors, c'est une critique qui a été beaucoup mise en avant depuis que Trump a assuré l'investiture. C'est à la fois juste... Et pas juste. Juste, sans doute, parce que Trump a une stratégie d'occupation de l'espace médiatique, presque. Il dévore l'oxygène médiatique parce que il a toujours une petite phrase. C'est le très bon client par excellence. C'est plus que le très bon client. Il a toujours la petite phrase polémique. Il a toujours le mot qui va faire parler. Donc il est parfaitement adapté au rythme, en particulier des chaînes d'infos continues qui ne peuvent que le mettre en tête d'affiche. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, il l'a dit, et maintenant c'est bien assuré, c'est qu'il avait prévu cela pour ne pas avoir à trop dépenser. Il n'a pas eu besoin de dépenser en publicité comme autant que ses concurrents, car il savait qu'il aurait de l'espace médiatique gratuit par ses provocations. Mais c'est pas juste au sens où il y a eu des enquêtes sur, en particulier, ses échecs dans les casinos à Atlantic City, où il a beaucoup investi, puis il est parti sans laisser trop d'adresse, on va dire, à beaucoup de personnes qu'il a laissé dans la détresse. Aussi sur ses échecs dans l'immobilier à New York. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Il s'en prend beaucoup au New York Times parce que le New York Times l'a beaucoup suivi dans les pages new-yorkaises du journal lors de ses affaires. Et c'est un journal qui en sait beaucoup sur lui. Par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le journal handicapé dont il s'est moqué, c'est pas n'importe qui. Serge Kovalevski est un journaliste qui a suivi Trump dans les pages locales pendant 6 ans au début des années 90, au moment où Trump a été en faillite justement. Donc le discrédit jeté sur ce journaliste est fait aussi peut-être pour faire taire quelqu'un qui pourrait en dire beaucoup. Mais c'est certain que pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'enquête de fond qui était vraiment médiatisé.
Voilà, parce que les journalistes américains ont fait leur autocritique. Nous avons considéré d'ici la campagne de Trump comme une blague, on l'a pas prise au sérieux. Est-ce que ça donnait l'impression que finalement les médias étaient trop complaisants, Célestine Bollène, Michel?
Moi je pense que il y a deux éléments. D'abord parce que c'est un entertainer. Donc c'est pas bizarre que la presse lui a pris comme ça. Donc les blagues, les insultes et tout ça, ça fait... Mais le plus sérieux, c'est qu'ils n'ont pas pris au sérieux sa campagne. Et je pense que ça revient à cette question de mépris, dans un sens qu'il y a une grande partie des électeurs américains que les journalistes à New York ne connaissent pas, que je pense que les journalistes français ne connaissent pas. Je pense que c'est l'Amérique profonde, elle est assez... particulière, disons comme ça, et lui, il a su parler à eux. Donc, le fait que les journalistes n'ont pas entendu que cela l'écoutait, ça veut dire qu'ils ne les écoutaient pas non plus. Donc, c'est compliqué, mais c'est sérieux, je trouve.
Ça, l'Amérique n'est pas New York. L'Amérique, c'est aussi les armes à feu, la peine de mort, les banlieues industrielles rouillées, le sud religieux. C'est ce qu'écrivait dans JDD, dans le Journal du Dimanche, François Clémenceau. Et cette Amérique-là est mésestimée. C'est quand même très violent. C'est les violences, vous qui êtes maintenant en France, Michel Floquet, et encore 2 mois aux États-Unis. Cette violence dans les termes, dans la campagne, on la retrouve quand même pas ici, même avec le Front National.
Ah oui, non, on peut pas. Je crois qu'on peut pas comparer la violence de la société américaine avec ce qui se passe ici. C'est le pays de l'hyperviolence, enfin, violence sociale, violence raciale, violence entre les communautés, violence policière, violence économique, violence des inégalités qui n'ont jamais été aussi fortes dans ce pays. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, pour revenir à votre sujet, sur la déconnexion entre la petite élite journalistique et la réalité, parce que finalement, Trump est un vrai professionnel de la com, un professionnel de la télé, The Apprentice. C'était une émission formidable. C'est pas un jugement de valeur, c'était une émission qui marchait terriblement. Il les a tous emmenés là où ils voulaient. Ils n'ont rien vu parce qu'ils ne connaissent peut-être pas bien leur pays. Et ils lui ont servi la soupe d'une manière formidable.
Corentin Célin, cette Amérique, cette deuxième Amérique, l'autre Amérique, elle a été mésestimée vraiment.
Oui, oui, d'ailleurs, il y a.
Ce que disait Célestine Bollin.
Oui, complètement. Il y a un chroniqueur alors républicain, mais vraiment de l'establishment républicain du New York Times, qui est David Brooks. Qui a fait son mea culpa en disant la première leçon, c'est que je ne connais pas les électeurs des Appalaches, je ne connais pas et que je gagnerai sans doute à mieux les connaître et aller les voir un peu plus souvent. Et ça, c'est le médiateur du New York Times a fait un article sur le même thème la semaine dernière en invitant les journalistes politiques à peut-être aller un peu crotter leurs bottes dans les Appalaches. Et effectivement, et c'est les Appalaches, on va dire le Kentucky minier, la Virginie occidentale, vraiment cette campagne profonde américaine, c'est le cœur de l'électorat de Trump, là où il est le plus. Et c'est vraiment un espace mésestimé par la presse.
C'est Célestine Bollin.
Oui, je voulais juste dire qu'il y avait un commentaire, une autocritique d'un journaliste qui disait un problème, c'est que tout le monde suive les sondages. Et les sondages au début, c'était Trump, il était nulle part. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas allé plus loin à parler aux électeurs dans les États où il était, en fait, New Hampshire même.
Et aujourd'hui, un sondage lui donne 2 points d'avance sur Hillary Clinton.
Oui, mais les sondages, je pense que ça, c'est le problème.
Donald Trump, finalement, il pourrait devenir le 45e président des États-Unis.
Pourquoi pas? Vous savez, il y a quelques mois, personne ne donnait cher de sa peau dans la course à l'investiture. Aujourd'hui, bon, allez, sauf coup de théâtre qu'on imagine mal, c'est fait. Et donc, il faut absolument pas se dire que c'est gagné. Hillary Clinton est quelqu'un qui n'est pas aimé, qui est impopulaire. C'est la perdante d'il y a 8 ans. C'est une femme qui adore l'argent. Il n'est pas exclu que des scandales sur son amour pour l'argent et conflit d'intérêts avec la fondation que dirige son mari lorsqu'elle était elle-même au département d'État sortent pendant la campagne. C'est en tout cas le petit bruit qui courait à Washington. Et Trump, ce qui vient de se passer le prouve, il faut peut-être cesser de le sous-estimer.
Frédéric Carbone, en 2 mots, Trump, 45e président des États-Unis, fiction ou pas?
Écoutez, au moins la période des primaires a permis de se dire que le journalisme c'était pas une boule de cristal et que c'était pas et le travail n'était pas de faire des prédictions, au moins ça aurait servi à quelque chose. Je signe, resigne et sursouligne ce que dit notre consoeur du New York Times sur le décalage et la méconnaissance de ce qui se passe dans l'Amérique profonde et que ça c'est parfaitement intéressant. Après, oui, évidemment que Trump peut être le 45e président des États-Unis, que rationnellement, politiquement, tout indique qu'il n'a aucune chance, mais que rien n'est rationnel depuis ce qui dans cette campagne, que donc oui, non, aucun pronostic, strictement aucun. And we're gonna win.
We're gonna have great victories for our country. Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Le slogan de campagne redondant sa grandeur à l'Amérique, le slogan de campagne de Donald Trump. Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, Donald Trump vous intéresse et vous voyez des points communs entre Trump et Boris Johnson, l'ancien maire de Londres et qui est aujourd'hui celui qui mène la campagne pour le Brexit.
Oui, j'ai été frappée, bien sûr, au-delà de tout ce que vous avez dit et qui me semble tout à fait important. D'ailleurs, je voulais ajouter que, en ce qui concerne le vote des femmes qui travaillent sur Ségolène Royal, c'est intéressant de voir que les femmes ne votent pas majoritairement pour les femmes et que il faut, voilà, c'est une donnée qui, voilà, je parle en politologue, mais en ce qui concerne les signes que donne Donald Trump, j'ai été frappée par la ressemblance avec Boris Johnson, dont on a parlé aussi, puisque il s'est retiré de la vie politique et qui est ex-maire de Londres. Il a été remplacé par un autre maire. Et les deux ont quelque chose de commun, c'est ces espèces de touffes de cheveux blonds. L'un a été rébouriffé, l'autre a plutôt une mèche comme ça qui s'avance et qui recule. Les deux sont blonds platine. Les deux, à mon avis, on doit faire appel à leur coiffeur pour trouver cette couleur aussi étonnante. Et ces couleurs parlent politique d'une certaine manière. Les deux sont cash et trash, et leurs couleurs sont cash et trash. Ça leur donne un air déjanté, quelque chose à la fois de populaire et de marginal pour deux hommes qui sont très conservateurs. Donc, on les connaît rien que parce qu'ils ont leur panache. C'est-à-dire que même sans les connaître, les Français disent « Ah oui, c'est celui qui a cette espèce de mèche. Ah oui, c'est celui qui a les cheveux. » Donc, il y a là un signe très très fort qui permet de leur faire gagner un peu de temps. Tous les deux, physiquement, appartiennent à ces WASP. Hein. Ils sont white américains ou white british. Ils viennent l'un des grandes écoles et l'autre, ce sont aussi des gens très fortunés. Et pourtant, ces cheveux leur donnent quelque chose en rupture avec l'establishment. En fait, moi, je me disais que c'était une sorte de triangulation physique. Vous savez, on emprunte aux autres leurs idées. Là, on emprunte à l'autre leur côté un peu différent. Et c'est un peu l'idée que ce qu'on te reproche, cultive-le, qui a quand même donné cette incroyable popularité à Donald Trump. Vous dites que je suis mal élevé, je le suis encore plus. Mais finalement, Boris Johnson, qui dit quand même en 2001, votez conservateur, votre femme aura de gros seins, me semble aussi assez mal élevé pour un candidat conservateur. On est très très loin, encore une fois, de l'establishment britannique comme américain. Donc, on voit bien qu'après le Boris Johnson, c'est un candidat peut-être plus classique, même s'il est, vous savez, musulman et qui est élu, mais il est de l'autre bord. Hein, c'est un candidat Labour qui a gagné, donc peut-être il n'a pas suffi à Boris Johnson d'être blond, ébouriffé et mal élevé pour gagner ou donner envie de revoter conservateur ou britannique.
Alors, juste Michel Fauquet sur les cheveux, vous en parlez dans votre livre, il y a un paragraphe, oui. Donald Trump tient à montrer que ce sont des vrais cheveux.
Oui, au début de sa campagne, il y a eu évidemment ses cheveux, tout le monde les remarque, tout le monde en parlait. Moi. Et alors, il avait trouvé un gimmick très drôle et très efficace et qui faisait monter une ou deux ou trois femmes qui étaient là dans l'assistance sur scène et il leur demandait de tirer ses cheveux pour montrer que c'était bien ses vrais cheveux et pas un postiche. Et bon, succès garanti, évidemment.
Autre aspect, Isabelle Vermasson, vous notez dans cette primaire américaine, c'est que le succès de Donald Trump vient aussi du fait qu'il ne cache pas ses faiblesses.
Ce qui m'a étonné, c'est l'étonnement, d'une certaine manière, des médias et de la classe politique à l'égard de Donald Trump, ce grand pays démocratique dans lequel il y a une élite, indiscutablement, le nombre de prix Nobel, etc., de livres. Il y a une véritable élite américaine. On peut pas faire comme si c'était un pays peuplé de crétins. Au contraire. Et pourtant, il me semble que c'est pas la première fois que quelqu'un qui ne cache même pas ses faiblesses, qui ne se présente pas comme un lettré intellectuel avec une grande expérience politique, risque d'être élu, puisqu'on a quand même l'expérience de fils Bush qui, rappelez-vous, racontait lui-même que c'était un ancien alcoolique, qu'il n'avait pas fait de grandes études, qu'il n'était pas très brillant. Reagan n'était quand même qu'un acteur sans grande... Bien sûr, ce sont trois candidats extrêmement différents, mais quand on voit en France où il faut avoir faire bac plus 15 pour être élu, où il faut montrer qu'on a lu La Princesse de Clèves ou bien d'autres choses, le succès en Amérique ne repose pas sur de tels critères, et montrer ses faiblesses comme j'ai été un ancien alcoolique ou comme j'ai pas fait beaucoup d'études ou comme je suis mal élevé, je dis des horreurs, ne c'est pas forcément quelque chose qui va entièrement les faire disparaître dans le trou de l'histoire. Et donc c'était ça que j'avais envie de mettre en avant.
Vous êtes d'accord, Céline Bollen?
Oui, je suis d'accord, mais faiblesse, je dirais ignorance. Enfin, c'est vraiment frappant jusqu'à quel point il ne connaît pas le monde comme il est. Et moi, je ne comprends pas exactement à quel côté c'est faux ou c'est vrai, parce qu'il n'est pas complètement bête. I mean, j'imagine. Mais parfois, il dit des choses qui sont vraiment juste à côté.
Ses faiblesses sont une force.
C'est ça.
Et ça plaît aux Américains. Je veux dire, il explique aux Américains qui souffrent terriblement de la crise. La reprise américaine a fait que les gens qui étaient pauvres avant la crise sont encore plus pauvres depuis la reprise. Et les riches sont plus riches. C'est ça l'Américain. C'est un taux d'inégalité invraisemblable. Et ça plaît aux gens d'entendre qu'on va s'occuper d'eux et qu'on se contrefout de ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, en Chine ou ailleurs. C'est ici que ça se passe. Cette faiblesse, c'est une force.
Un dernier mot, Grant.
Oui, au-delà de l'exposition de ses faiblesses, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que Trump, ce que n'offre plus beaucoup les autres candidats, c'est-à-dire il offre un accès souvent direct aux journalistes. Il aime les recevoir. Alors, des fois pour les morigéner, pour les engueuler sur des papiers qui lui ont pas plu, mais il a une accessibilité que n'ont plus les autres candidats. Quand on pense que justement, alors ça il faut le garder en tête, Hillary Clinton met la presse à distance, n'a pas fait de conférence de presse pendant plusieurs mois durant la campagne, et Trump, lui, n'hésite pas à recevoir, par exemple, il y a le mois dernier, pour un portrait du New York Mag, il a reçu pendant des heures un journaliste qui a été effaré des choses qu'il a entendues, effectivement, mais qui disait dans l'article, il m'a reçu, il est direct, il a un contact, c'est une personne de chair et d'os et non pas un candidat qui est caché par derrière une nuée de communicants.
Il appelle aussi pendant les émissions. Voilà. Quand on parle de lui, il appelle l'émission, il dit bah non, c'est pas ouais.
Berlusconi. C'est pas le seul, c'est arrivé récemment à BFM Télé avec, le cabinet de Manuel Valls. Il utilise aussi beaucoup Twitter, Donald Trump. Ouais. Bon, on en parlera sans doute la prochaine fois. Il a quand même plus de 5 millions de followers, pratiquement 6 ouais. millions de followers.
C'est pas un gars, il en a ouais. plus qu'Hillary Clinton ouais, sur Twitter, moins. Sur Facebook, il est très présent. Ouais. Ouais. Ouais.
Le groupe américain REM sur France Culture, It's the end of the world and you know it. Merci à tous pour ce débat sur Donald Trump et la presse. Eh bien, on va traverser le Pacifique, direction Pékin, avec vous, Patrick Saint-Paul. Vous publiez Le Peuple des Rats chez Grasset. Alors, on vient de parler des rapports compliqués entre la presse américaine et Donald Trump et les correspondants étrangers. En Chine, comment travaillent les journalistes? Vous êtes sous étroite surveillance. Hein, vous dites que les journalistes sont une espèce inspirant la plus grande méfiance des autorités et aussi des Chinois. Et être journaliste en Chine, c'est un défi.
Oui, en Chine, les rapports avec le pouvoir sont extrêmement simples. Ils sont pas compliqués, ils sont inexistants. Donc, comme ça, le problème est réglé. C'est le premier pays où je travaille, où c'est complètement impossible de rencontrer des officiels, d'avoir leur avis, de savoir ce qu'ils pensent. Et après, donc, évidemment, pour travailler, ça montre un peu, la considération qu'ils ont pour les médias. Et pour travailler, c'est extrêmement compliqué. Ça l'a toujours été, avec des phases plus ou moins tendues. Et là, on est dans une phase où c'est de plus en plus tendu parce que Xi Jinping a lancé une campagne anti-occidentale qui se répercute évidemment sur le travail des journalistes parce que tout simplement parce que les sources ne veulent plus nous parler, parce que parler à un journal étranger ou un média étranger, c'est se mettre en danger, c'est risquer de, quand on est professeur à la faculté, de perdre son job. Donc ça c'est très compliqué. Ensuite, travailler sur le terrain, tout ce que les Chinois appellent les sujets sensibles, c'est des sujets qui sont très difficiles à traiter dès que ça touche les dissidents, tout ce qui est un peu négatif pour l'image de la Chine. Donc ces sujets-là, ils sont de plus en plus nombreux. Et dès qu'on est sur le terrain et qu'on veut faire travailler sur ces sujets, souvent on a l'intervention de la police qui nous chasse, qui nous empêche de travailler, qui nous reconduit à l'aéroport, par exemple dans le Xinjiang, ou au Tibet c'est complètement interdit d'y aller, sauf si on est invité par le parti ou par le pouvoir. Donc c'est pas simple et c'est de plus en plus compliqué. Je pense que ça le sera encore davantage.
Donc les mails sont surveillés, les conversations écoutées, la police vous rend visite dans le bureau et vous dites au bureau et vous dites qu'il y a des sujets tabous. Hein, les sous-sols et aussi Tiananmen, très compliqué de parler de Tiananmen.
Tiananmen, c'est totalement censuré. Sur l'internet chinois, ça n'existe pas. La date n'existe pas. On appelle ça le 35 mai au lieu du 4 juin. Voilà, donc il y a un tas de choses qui sont totalement interdites. Et oui, la police vient au bureau régulièrement pour, voilà, vous avez un rendez-vous, ils le savent, même si vous avez pris des précautions, si vous travaillez avec des VPN, avec... En fait, ils viennent à votre bureau, si ça les dérange, ce rendez-vous, pour vous interdire d'y aller. Donc c'est assez compliqué.
Alors, le peuple des rats, on dit shuzhou en chinois. Hein,
shuzhou, oui.
Shuzhou en chinois, c'est également un sujet tabou.
Ça fait un an que je n'ai pas vu mes proches, il me manque beaucoup. Je rentre chez moi seulement pour les vacances. C'est impossible pour ma femme et mes enfants de me suivre à Pékin. Je n'ai pas de permis de résidence ici, alors tout est compliqué. Je ne pourrai même pas les inscrire à l'école.
Alors Patrick Saint-Paul, ces personnes sont des Mingong, des migrants. Ça concerne des dizaines de millions de personnes. Des centaines de millions de personnes.
C'est la plus grande vague de migration de l'histoire de l'humanité. C'est 300 millions de personnes qui ont quitté les campagnes chinoises pour affluer dans les villes depuis ces trois dernières décennies. Elles ont participé au miracle économique chinois avec une quinzaine d'années de croissance à double chiffre. Voilà, on a transformé des paysans en travailleurs dans les villes, en ouvriers qui sont employés à construire des tours de 100 étages, à travailler dans les services, à être livreurs, travailler dans des restaurants. Et en fait, le but ultime, c'est de transformer des paysans qui arrivent du 19e siècle en consommateurs pour changer de modèle économique. Ils participent à toute cette transformation, mais c'est un peu les laissés pour compte du miracle parce que eux n'ont pas accès ou un accès très, très mesuré à la richesse.
Alors, les sous-sols de Pékin, c'est une succession de galeries, de souterrains et de caves ou de bouches d'égouts que l'on a aménagées en lieu pour dormir. Comment c'est parti, cette construction de souterrains et de galeries?
Alors, la bouche d'égout, c'est un cas un peu particulier. C'est-à-dire que la bouche d'égout est réservée aux rats, entre guillemets. J'emploie le mot parce qu'eux-mêmes l'utilisent. Donc, ils se définissent comme des rats parce qu'ils vivent dans les mêmes conditions que les rats.
Ça n'a pas la même connotation qu'en France.
Ça n'a pas la même connotation parce que dans l'horoscope chinois, dans le zodiaque, le rat est un animal débrouillard, malin et qui réussit. Donc, voilà, les parents sont pas totalement effondrés lorsque leur enfant naît l'année du rat. Voilà, les égouts, c'est un cas particulier, c'est réservé aux rats, donc, qui n'ont pas les moyens de payer un loyer. Donc, l'égout est totalement gratuit, contrairement au sous-sol où on loue une pièce et c'est à peu près 4 fois moins cher qu'à la surface. On loue ça pour une pièce entre 5 et 8 mètres carrés, à peu près 70 euros par mois. Et ces sous-sols, en fait, ont été construits, la construction a démarré à l'époque de Mao, à la fin de son époque plutôt, lorsque il y avait un début de guerre froide entre l'Union soviétique et la Chine. Et donc on avait peur des bombardements et on s'est mis à construire des sous-sols partout dans Pékin avec un mouvement extrêmement massif. Et ensuite, il a été devenu obligatoire de construire pour chaque nouvel immeuble un sous-sol. Donc il y a des galeries, il y a des strates, ça va jusqu'à 1, 2 ou voire 3 sous-sols. Il y a 6000 sous-sols dans Pékin qui sont loués, en fait. Mais, comme toujours en Chine, c'est pas un système officiel, c'est pas officiellement légal de louer, c'est une sorte de zone grise qui fait que c'est très compliqué et que, voilà, ces gens ont très peur de parler de leur situation parce qu'ils ont peur de perdre leur logement. Comme c'est pas autorisé, ils louent de façon un peu inofficielle. Du coup, ils craignent qu'on parle d'eux et d'être expulsés, en fait.
Oui, c'est très difficile de gagner leur confiance. Et vous vous êtes rendu compte, au bout d'un moment, qu'il y avait un monde des ténèbres sous l'immeuble où vous habitez.
Oui, alors c'est ce que j'ai découvert. En fait, après mon premier reportage où j'ai été chassé de l'endroit au bout de 2 heures, sachant qu'il y en a 1 million à Pékin, j'ai commencé à aller voir partout. C'est devenu un peu obsessionnel. Et là, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y en a chez moi dans mon immeuble? Donc, je suis allé au parking et là, j'ai vu qu'il y avait une grille avec des ombres qui passaient derrière. Mais la porte était fermée, donc j'ai fait un peu le tour, j'ai cherché tous les moyens pour rentrer. Et finalement, j'ai compris qu'en appuyant sur la touche L2 sur l'ascenseur, c'était très simple d'arriver chez eux. Et là, on arrive dans un monde de sol visqueux, sale, avec une odeur pestilentielle, des vêtements qui sèchent partout dans les couloirs, un éclairage au néon, pas de lumière, une odeur, une atmosphère épouvantable, chargée de moustiques, de cafards, de... Donc voilà, mais en même temps, j'ai découvert sous mes pieds un monde parallèle. Dans un dortoir, il y avait une trentaine d'ouvriers, des gueules noires qui rentraient du travail et qui construisent une tour de 100 étages dans le centre des affaires de Pékin. Le dortoir d'à côté, c'était une dizaine d'hommes, que des hommes, qui sont serveurs dans un restaurant, parce que lorsqu'on est propriétaire d'un restaurant à Pékin, comme les logements sont très chers et que les employés vivront très loin si on leur paie pas un logement, on les loge. Et donc on les loge dans les conditions les moins onéreuses. Voilà, j'ai trouvé un dortoir de femmes de ménage et j'ai découvert alors l'homme qui est chargé de l'entretien de ma résidence qui m'a reconnu et qui m'a dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il a été adorable. Dès le premier jour, le contact était bien passé quand j'étais arrivé dans cet appartement. Et il m'a pris sous son aile et il m'a emmené dans les cuisines. Je suis arrivé pour un festin, c'était avant le nouvel an chinois. Il m'a ouvert toutes les portes.
Alors dans le même temps, plus haut, dans les rues de Pékin, là, c'est des fortunes colossales qui montrent l'apparence, qui montrent le luxe, qui montrent les voitures qui roulent doucement, vous dites.
Oui, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un aveugle qui me le raconte, qui est dans les rues de Pékin depuis 30 ans. Et je lui demande, alors, qu'est-ce qui a changé en 30 ans pour vous? Il dit, on entend au claquement des portes, au son des voitures, tout ça, que c'est pas la même bande-son qu'il y a 30 ans. Il dit aussi, avant, c'était très difficile pour traverser la rue, pour un aveugle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que les gens roulent très doucement pour se montrer. Et, donc voilà, effectivement, c'est une société où on se montre et il y a un écart entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté en Chine qui, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où il y a un tel écart. C'est assez frappant.
Vous nous dites qu'ils ont participé au miracle économique de la Chine et ils restent bien à l'écart, très pauvres dans des conditions insalubres, avec la pollution, avec aussi l'alimentation. Il faut faire attention en Chine, avec les scandales alimentaires à répétition. Comment sont considérés ces Mingguang par le Parti communiste chinois? Un mal nécessaire, inévitable?
Une chance formidable. Ces Mingguang, c'est, voilà, toute la croissance s'est appuyée sur eux. Donc, c'est des gens très utiles à la Chine.
Mais qui restent en sous-sol, qui restent à leurs conditions.
Mais qui restent en sous-sol, mais pour le Parti communiste, ils sont absolument indispensables à la croissance du pays. Le problème, c'est qu'on peut pas leur donner tous leurs droits, en fait, sont liés à un permis de résidence qui s'appelle le Hukou. Si on n'a pas ce permis, on peut pas inscrire ses enfants à l'école, on peut pas se faire soigner, donc on est obligé à chaque fois de recourir à des systèmes privés. Donc le résultat, c'est que ces gens laissent leurs enfants à la campagne. Il y a 65 millions d'enfants qui sont abandonnés dans les campagnes sous la garde de leurs grands-parents, mais quand on a passé toute une vie à travailler les champs, on n'a plus vraiment la forme pour élever des enfants. Et alors, tous ces droits sont rattachés à leur permis qui reste à la campagne, qui n'est pas transféré vers les villes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 23 millions d'habitants à Pékin. S'il n'y avait pas ce permis, il serait 35 ou 40 millions. La vie serait insupportable. Et donc là, on en est à la deuxième génération de Mingguang qui supporte tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'espoir pour leurs enfants d'avoir une vie meilleure parce que l'ascenseur social ne fonctionne pas en Chine. Leurs enfants restent à la campagne, donc ils profitent pas du tout de tout ce que pourrait leur apporter la ville. Ils seront obligés de tout recommencer à zéro. Mais ils sont utiles et c'est les consommateurs de demain. On espère peu à peu leur faire gravir les échelons pour que peu à peu ils accèdent à la classe moyenne chinoise.
Utiles, mais sacrifiés malgré tout.
Oui, mais totalement sacrifiés. Comme souvent, voilà, il y a eu des grands mouvements en Chine de catastrophes provoquées par Mao, par les décisions prises par le parti. Et là, on a décidé de faire un immense mouvement d'urbanisation parce que on est à 50% de gens qui vivent dans les villes et que dans les pays développés, c'est plus entre 55 et 60%. Et donc, ça continue à marche forcée. Il y en a eu 300 millions et d'ici 2030, il doit y avoir 300 millions supplémentaires.
Merci Patrick Saint-Paul. Le peuple des rats dans les sous-sols interdits de la Chine, édité chez Grasset. Le clin d'œil de l'émission, le député Underwood, personnage central de la série House of Cards, face à une enquête journalistique, un peu comme l'un de nos députés, Denis Baupin, cette semaine.
Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de se parler. Vous êtes une excellente députée, Jackie, bien plus efficace que nombre de vos collègues expérimentés. Vous êtes une rassembleuse, une battante quand il faut l'être. Dites-moi donc, où vous voyez-vous dans quelques temps?
J'ai essayé de te joindre.
J'ai laissé mon téléphone à
l'intérieur. Il faut qu'on parle.
Qu'est-ce qu'il y a?
Christina, je lui ai parlé à l'instant.
Encore Zoé?
Oui, mais ce n'est pas tout. Elles enquêtent sur Rachel aussi.
dans le couloir qui longeait cette salle. Denis Baupin est venu, m'a plaqué contre le mur en me tenant par la poitrine et a cherché à m'embrasser.
Dis-moi pour Rachel, où est-elle ?
Je contrôle la situation, c'est pas ce que je t'ai demandé. Je l'ai conduite chez elle, on n'a pas à s'en faire pour elle.
Tu disais ça pour Mademoiselle Skorsky.
J'ai un peu parlé avant et j'en ai parlé à plusieurs personnes. Mais comme on nous dit que ça nous détruira et qu'en plus on abîmera le parti, et que les intérêts du parti doivent passer avant le reste, eh ben on se tait.
Pourtant ces femmes avaient déjà parlé à leur entourage, aux responsables de leur parti.
Comment allez-vous, Jackie ?
Bonjour, monsieur le député.
Merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Célestine Bollen, chroniqueuse au New York Times, Michel Floquet, directeur adjoint de l'information de TF1 et correspondant de la chaîne à Washington pendant 6 ans. Et vous publiez, Michel Floquet, Triste Amérique, le vrai visage des États-Unis aux éditions Les Arènes. Merci à Corentin Célin, historien spécialiste des États-Unis, et à Frédéric Carbone, correspondant de Radio France et de France Culture à Washington. Notre regard extérieur qui nous a accompagnés aujourd'hui, Isabelle Vera-Masson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Merci également à Patrick Saint-Paul que l'on vient d'entendre, correspondant du Figaro à Pékin et qui publie Le Peuple des Rats. Chez Grasset, le clin d'œil de Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Jacques Hubert. Dans un instant, le journal de Thomas Schoner, suivi de répliques, heures et malheurs de la société multiculturelle. Alain Finkielkraut reçoit Alain Renaud et Mathieu Bock-Côté. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal réplique. Bonne journée sur Culture.
Face à Trump, les journalistes ont un peu fait comme les journalistes politiques français face au Front National, c'est-à-dire qu'ils avaient plus un avis, ils ont pu s'attaquer sur l'écume des choses que sur la réalité de ce qu'il est.
Les questions dans les débats télévisés les plus délicates pour Donald Trump ont souvent été posées par des journalistes de Fox News. Autrement dit, le reflet d'une élite républicaine, évidemment pas pro-Trump.
Il s'en prend beaucoup au New York Times parce que le New York Times l'a beaucoup suivi dans les pages new-yorkaises du journal lors de ses affaires. Et c'est un journal qui en sait beaucoup sur lui.
On est beaucoup critiqué pour avoir fait trop d'attention, mais je pense qu'on ne peut pas ignorer un phénomène comme ça.